faut remporter le prix. Je me suis dit que je courais assez toute la journée. Je n'avais pas envie de courir le dimanche. J'ai préféré choisir un autre texte qui... parce que je pense que c'est plus facile de marcher que de courir. Mais j'ai aussi fait ce choix parce que vous avez eu votre week-end d'église, le week-end dernier donc. Pour ma part, j'étais avec l'église de la Colline, c'était aussi un très bon week-end. Et puis, bien sûr, on a partagé avec Corinne de ce que vous avez vécu. Et puis, je me suis dit, non, la course, ça ne va pas jouer quand on nous dit de demeurer, quoi. S'il faut demeurer, pourquoi courir ? Donc, j'ai préféré choisir un texte qui, j'espère, sera un peu à la suite de ce que vous avez vécu, si la personne qui m'a raconté ce que vous avez vécu a tout compris. Petit test. On verra au dîner. Si j'ai bien compris, Jean 15, Jean 17, deux textes fondateurs, deux textes qui nous appellent à demeurer, un en Christ, l'autre qui nous appelle à demeurer les uns avec les autres. Et puis, alors que je réfléchissais à ça, je me suis dit, quand même, ça fait 2000 ans qu'on le répète. 2000 ans qu'on dit qu'il faut être unis, 2000 ans que Jésus a fait la plus grande prière de sa vie pour être uni parce qu'il nous connaît, 2000 ans qu'on prêche ça en église, et il faut toujours. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec quelqu'un puis vous avez l'impression de vous répéter parce qu'il ne vous comprend pas. Je ne sais pas quelles sont les émotions qui viennent en vous quand vous dites quelque chose à quelqu'un et vous percevez qu'il ne vous comprend pas. 2000 ans que Dieu nous dit « Demeurez en moi et soyez unis. » Ai-je besoin d'aller plus loin ? Le texte que je vous propose, je ferme cette parenthèse, c'est le texte de Luc 24 avec ces deux disciples qui marchent. Alors, je n'ai pas la même version que vous, donc je vais le lire là. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approche et fait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Vous parlez de quoi pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répond, « T'es le seul à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours. » Je lis à ma manière. Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment, alors, les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont arrêté pour qu'il soit condamné à mort et ils l'ont crucifié. Nous, on espérait, on avait de l'espérance que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Alors, il est vrai qu'il y a des femmes de notre groupe qui nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, toute la pédagogie, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur explique dans toutes les écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut voulu aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant, « reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il rentre pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnurent. Mais hop, il disparaît de devant eux. Ils se dirent l'un l'autre, « Est-ce que notre cœur ne brûlait pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Seigneur mon Dieu, je te demande de nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire par ta parole. Ces textes sont paroles de Dieu, on le confesse, on l'affirme, et bien qu'on puisse se mettre à ton écoute maintenant. Amen. Je vous invite à prendre verset par verset, je vous rassure, pas 2 heures par verset, quoique cette semaine j'ai suivi une conférence de 4 heures sur demeurer en Christ, je peux vous la refaire si vous voulez, mais non. Et juste voir 2-3 choses qui peuvent nous être dites. J'aime beaucoup ce texte. Ce même jour, lequel ? On était quel jour, puisque c'est le même ? C'est ce jour de la semaine, premier jour de la semaine, où ces femmes sont allées au tombeau et que Jésus n'est plus là. Je vous dis ça parce qu'il faut se mettre dans le contexte quand même. Ces deux hommes sont en train de marcher, ils quittent Jérusalem le jour où ils ont entendu cette femme qui dit que Jésus leur est apparu et qu'il n'est plus dans le tombeau. C'est ce même jour, certainement dans l'après-midi, et on se met en marche. On est extrêmement peu de temps après la mort et peut-être résurrection de Jésus. Pour eux, ce n'est pas encore clair. En tout cas, mort, oui. Leur espérance est morte. Ils sont tristes. Tout est tombé. Ils avaient vu en Jésus cet homme qui fait des miracles. Vous savez, ce Dieu puissant qui va nous libérer est plus rien. Ils sont dans cet état ce même jour. Et puis, ils marchent environ 12 kilomètres. Pas une petite balade, hein ? Environ 3 heures. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pendant cette marche, ils parlent, ils discutent. 3 heures de leur quotidien où ils osent partager ensemble. C'est un petit peu de la communauté qui est dans son quotidien et ils osent partager ensemble ce qui les chagrine. Qui sont ces deux hommes? On ne sait pas encore exactement, le texte nous le dira plus tard, on y reviendra, mais je trahis déjà un peu le suspense. Ces deux hommes sont tout simplement des gens mais hyper proches. Ils font partie des gens qui ont vu les femmes arriver et leur dire ça. D'entre nous, ils font partie de cette communauté qui était avec les apôtres, les disciples, et qui ont entendu ce moment. Mais je ne sais pas si vous réalisez, ces femmes, elles viennent d'aller au tombeau et disent « On l'a vu !» Ils sont à ce niveau-là. Et ces deux hommes-là, proches de cette communauté, continuent leur chemin et ils partagent ensemble. Versets 14 et 15. Il y a 2 mots qui sont intéressants que j'aimerais vous dire, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on entend discuter ou s'entretenir. Ils s'entretenaient et discutaient l'un avec l'autre. Et ces 2 mots sont importants. Ils s'entretenaient, ça veut dire ils étaient en compagnie. S'entretenir, c'est être ensemble. C'est vivre la communauté. C'est rester avec. C'est tchatcher les uns avec les autres. C'est ce bon moment. On est là et on discute. Mais il y a le mot, justement, discuter. Et là, c'est on négocie, on cherche, on examine, on se dispute, on se demande que ce qu'on a vu est vraiment vrai. Donc, ils ont ces 2 choses. Ils sont ensemble, ils cheminent ensemble, mais en même temps, ils discutent, ils se disputent. Alors, de quoi ils parlent ? On a une petite idée. Elles étaient folles, ont-elles raison? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Ces deux hommes d'une communauté plus large vivent une petite communauté et dans leur quotidien, en allant à Emmaüs, ils partagent, ils discutent de cet événement qui les interroge. Et puis je vous rends juste attentif que quand deux juifs discutent, c'est pas suisse. On ne cherche pas le compromis. On n'est pas dans la diplomatie. Hein ? Je ne sais pas si vous avez lu les évangiles. Quand Jésus parle aux pharisiens, il ne met pas de gants. Le dialogue, le débat est fort. Et ça, ils le font en chemin. Jésus est mort, il est ressuscité. Comment est-ce qu'on va appréhender ? Comment est-ce qu'on comprend cela ? Et c'est dans ce débat que tout d'un coup, Jésus arrive. Jésus fait route avec eux, verset 16. C'est ça. Il est là. Ils l'ont vu avant. Hein. Comme j'ai dit, c'était des proches, ils faisaient partie de l'Église. Hein. Ils faisaient partie de ceux qui ont vécu avec Jésus. Et il y a cette petite phrase très particulière, leurs yeux étaient empêchés de les voir, de le voir, pardon. Pourquoi ? Comment ? On se pose la question, le texte le dit un petit peu, mais pas trop. Pourquoi ils étaient empêchés de le voir ? C'est étonnant, hein ? Alors un élément de réponse que le texte nous donne, là de nouveau je vais un bout plus loin, c'est que finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué les noms qui sont utilisés pour Jésus. Eux utilisent quel nom ? Jésus utilise quel nom ? Ça vous a marqué ? Eux, ils disent Jésus de Nazareth. Jésus dit le Christ. On ne parle pas de la même. On parle de la même personne, mais pas la même image. Eux, ils ne voient pas le Messie, ils voient un grand prophète qui fait des miracles. Le texte nous le dit. C'était un grand prophète qui fait... Ils ne voient pas ce Christ qui devait retourner dans sa gloire, comme Jésus va leur dire. Et là se pose toute la question de l'image que nous avons de Jésus et de celle que l'Écriture nous donne. Et est-ce qu'on est capable de se remettre en question sur l'image qu'on colle sur Jésus ? Corinne avait posé une question. Si Jésus venait là, est-ce qu'on le reconnaîtrait ? Et moi, c'est une question qui me perturbe depuis le début où je suis chrétien. J'ai tellement l'impression qu'on me dit qui il est que j'ai tellement lu ces évangiles où les pharisiens qui connaissaient par cœur les prophètes ne l'ont pas reconnu, que je me dis, et moi ? Alors je suis rassuré, j'ai l'Esprit de Dieu, heureusement qu'il m'illumine, heureusement qu'il y a lui, parce que sinon ce serait vraiment la nuit complète. Mais cet Esprit de Dieu nous aide à comprendre. Mais ceci doit nous rendre humbles, très humbles, sur ce qu'on croit de Jésus. Non pas que c'est faux, mais c'est jamais totalement la réalité. Eux, ils voient Jésus Nazareth et c'est le Christ en gloire, ressuscité, qui vient marcher avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. Ce n'est pas le même. Petite digression encore un tout petit peu pour vous dire, est-ce que de temps en temps, dans nos marches difficiles, quand on a l'impression que Jésus est absent, est-il vraiment absent ? Ou est-ce que nos yeux sont empêchés de le voir parce qu'on imagine ce qu'il devrait faire et puis que, pas de chance, Dieu fait comme il veut ? Et il n'obéit pas toujours à ce qu'on lui demande. Est-ce que quand il chemine avec nous, est-ce que parfois on n'est pas simplement empêché de le voir ? Ce n'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'on est empêché de le voir parce que peut-être que l'image qu'on a de ce Jésus ne correspond pas. Fin de la parenthèse. On continue. Et là, il y a ce questionnement de Jésus. Et ce questionnement de Jésus, vous verrez, pour moi, résonne avec la Genèse. Le « Où es-tu ? » Où es-tu ? Vous vivez quoi ? Vous en êtes où ? Qu'est-ce que tu as vécu ? De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ? Juste pourquoi le parallèle avec la Genèse ? Parce que le « Où es-tu ?» dans la Genèse, c'est quand les yeux se sont ouverts. Les yeux s'ouvrent à cause du péché et Dieu va leur dire « Oh, tu es où ?» Là, les yeux sont fermés et Dieu vient et dit « Vous êtes où ?» Ici, ce sont les pèlerins qui marchent. Dans la Genèse, c'est Dieu. Première fois où il nous a dit que Dieu marche et qui vient les chercher. Là, il accompagne, il est avec. Fin de la digression littéraire. Mais il y a un parallèle clair entre les deux, le « où es-tu ?». Il demande simplement de se positionner. Alors ensuite, ils expliquent que Jésus est qu'un prophète extraordinaire, comme j'ai pu le dire. Ils n'ont pas cette connaissance, ils ne saisissent pas qui est vraiment Jésus. Ils avaient une espérance de ce qu'il devait faire et il a fait autre chose. Et là, je refais une petite digression, parce qu'il faut quand même arriver au demeurer à un moment. Ce que je trouve intéressant, pour demeurer ensemble, les deux, ils cheminent et ils osent se disputer. Et puis, une chose que je trouve intéressante, et je l'appelais à l'humilité, c'est pour que demeurer aussi les uns avec les autres, il faut reconnaître que les autres savent aussi quelque chose de Jésus. Et ils n'ont à nous l'apprendre. Ce n'est pas parce qu'ils le disent autrement, ce n'est pas parce qu'ils le vivent autrement, ce n'est pas parce qu'ils le perçoivent autrement qu'ils n'ont rien compris. On n'a jamais saisi que c'est Jésus qui dit « Je suis la vérité ». Ce n'est pas nous. Alors nous, on lit « Je suis la vérité », on a cette tendance à s'approprier le « je ». Mais non, l'Église ne détient pas la vérité. On en a une perception, une révélation. On voit comme dans un miroir. Et l'humilité, l'unité, le demeurer les uns avec les autres ne sera possible, à mon avis, que quand on sera capable de se dire que l'autre a quelque chose à m'apprendre aussi sur le Christ. Même s'il ne chante pas comme moi, même s'il ne prie pas comme moi, parce qu'il sait quelque chose de Dieu que je ne sais pas. On n'est que les sarments, et il y en a tout plein. Pour porter du fruit, il n'y a pas qu'un seul sarment, il y en a plusieurs. Il les faut. Et ça, c'est important. L'unité est possible que dans cette capacité à vivre la diversité. Et je vous assure, ça je l'ai dit une fois au groupe de jeunes, mais je le répète, que la diversité est ce que nous ne voulons pas. C'est contre notre nature. C'est extrêmement difficile. C'est pourquoi Jésus a dû prier si longuement qu'il soit un, comme nous sommes un. C'est la plus longue prière de Jésus, cette intercession, parce qu'il nous connaît. C'est dur. L'unité est magnifique, mais c'est difficile. Mais l'unité passera que par là. La reconnaissance que je ne détiens pas la vérité et la reconnaissance que l'autre peut m'apprendre quelque chose. Extrêmement important. Versets 22 à 24. « Quelques-uns d'entre nous, c'est ce que je disais, ils font partie de cette communauté, ils s'associent aux 11 qui restaient et tous les autres. » Et là, on peut un peu imaginer, je vais quand même imaginer la discussion qu'ils ont eue. Comment on peut accepter notre vision de Jésus et les dires de ces femmes? Comment on met ça ensemble? Comment on le comprend? Comment est-ce qu'on croit ce qu'on croit et l'articuler avec ce que les autres églises disent? Comment accepter que notre vision peut être dérangée par celle des autres? Comment on va demeurer les uns avec les autres alors qu'on ne pense pas et qu'on ne vit pas la même chose? Je vous donne un petit exemple, désolé si je l'ai donné, mais c'est un exemple qui m'a marqué quand j'étais pasteur dans la ville de Castres, dans le sud-ouest. Et la pastorale qu'on avait, on ne partageait que nos désaccords. On s'est dit, là où on croit ensemble, c'est bon, on le sait, on ne va pas le répéter. Maintenant, on va amener ce sur quoi on se frite un peu. Et là aussi, ce n'était pas en Suisse, c'était le sud-ouest, pays du rugby. Petite habitude aux mêlées. Donc le réformé a parlé de la parole de Dieu. Le pentecôtiste a parlé des dons de l'esprit. Michel, il a parlé du baptême, par immersion, pas immersion, enfant, pas enfant. Et on s'est disputé sur ces sujets. Et on est allé assez loin quand le pasteur réformé arrive, déchire sa Bible et dit « Vous, les évangéliques, vous êtes des bibliolâtres. » Ça a lancé l'ambiance tout de suite. Et on a discuté, on s'est disputé, on a marché ensemble. Alors on avait posé des règles, je vous rassure. De ce qu'il fallait dire, comment l'a-t-il dire. Mais j'ai rarement vécu une si grande unité entre les divers mouvements d'Église. Après, on a pu le vivre avec l'Église elle-même, pour parler, discuter nos désaccords, et peut-être entendre d'autres choses. C'est possible, mais il faut le vouloir. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Verset 25. Là aussi, Jésus n'a pas lu tous les livres de pédagogie ou le livre de l'encouragement de Larry Crabb. Comment Jésus nous parle? Alors, on aime les paroles bienveillantes, et je suis pour, et parfois on a besoin des paroles bienveillantes et d'amour de Jésus. Mais est-ce qu'on sait se faire remettre en question par le Christ aussi? Là, c'est le Christ revenu en gloire qui leur parle. C'est pas n'importe qui, c'est le ressuscité. Il vient de ressusciter, là. Il marche avec eux. Mais vous avez rien pigé. Purée, c'est 3000 ans d'histoire, 3000 ans de textes, de prophéties. Et vous avez toujours pas compris. Homme sans intelligence. Est-ce que parfois on ose entendre ces paroles et se dire « Oui, c'est vrai quand même, c'est compliqué. J'ai pas tout compris. Je saisis pas. » Est-ce qu'on a cette compétence d'accepter nos travers, nos désaccords? Et alors, par la suite, Jésus leur explique. Il parle de Moïse et il va, il fait tous les prophètes pour leur dire. Et là, je vais dire une platitude, mais est-ce qu'on ose passer nos pensées par le crible des Écritures? Non pas chercher les textes qui nous arrangent pour prouver ce qu'on vit. Je vous donne un exemple. Vous savez, la Frey, elle est en train de faire Opal. Si vous ne savez pas, c'est un style de management. Et puis, ils passent leur temps à nous dire que c'est biblique. Alors, ils cherchent trois versets qui en parlent. Je suis un peu méchant, mais c'est enregistré. Et une fois, quand j'ai eu ces discussions, je dis, ça ne m'intéresse pas, ça, de chercher des textes qui viennent dire ce que j'ai envie de vivre. On sait tous le faire. Eux, ces gens-là, étaient capables de prendre plein de textes pour dire que oui, ils devaient venir nous libérer. Ils avaient les textes pour eux. Mais est-ce qu'on se met vraiment à l'écoute du texte biblique qui vient parfois nous remettre en question? Et c'est un exercice qui est difficile. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse. Est-ce qu'on écoute encore de temps en temps les théologiens qui ont des choses à dire? Est-ce qu'on ose aller vers des gens, on se dit, lui, il connaît vraiment les Écritures. Et là, je ne comprends pas. Est-ce qu'on va vers ces personnes qui, finalement, vont à l'écoute du texte et qui passent leur temps à écouter le texte? Alors, bien sûr, tous les théologiens ne sont pas bons. Certains font... On a tous ce travers de vouloir entendre ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on ose de temps en temps passer au crible des Écritures nos pensées? Ce n'est pas facile, de nouveau, des marches difficiles. Tout ça pour vous dire que la marche qu'ils sont en train de faire n'est pas simple. Hein. Non seulement c'est long, 12 kilomètres, mais en plus ils rencontrent quelqu'un qui ne savent pas qui c'est, qui les engueule, qui leur dit qu'ils n'ont rien compris et qui leur réexplique ce qu'ils devaient comprendre. Ce n'est pas simple ce qu'ils sont en train de vivre. Et pourtant, on verra, ça avait l'air d'être super. L'importance de l'enseignement, de connaître et de comprendre ce que Dieu dit, c'est nécessaire. Je vous rassure, on ne va pas marcher 3 heures. On arrive au bout. 3 heures qu'on marche ensemble, le soir arrive, il faut le temps du repos, ce temps d'arrêt nécessaire. Temps de repos après la marche et la discussion qui devait être quand même animée pour rompre le pain et se rassasier. Passer du bon temps ensemble, autour d'un bon repas, se reposer. Et vous avez remarqué que c'est là que les yeux s'ouvrent, quand ils sont dans le repos, quand ils arrêtent de marcher, qu'ils se mettent autour de la table, qu'ils mangent ensemble, là, les yeux s'ouvrent. La communauté comme lieu de repos. Et moi, je fais mon parallèle comme un symbole du culte aussi, ce temps d'arrêt. Est-ce que le culte est ce temps d'arrêt où on vient se reposer, rompre le pain pour que nos yeux s'ouvrent sur ce qu'on vit? Toute la symbolique du culte. Et j'ose la question, est-ce que nos cultes sont des lieux de repos? Et dans cette période anxiogène, on a fait un peu allusion, est-ce que la région de Cossonay voit en l'église de Cossonay un lieu de repos et de paix? Où ils se disent, là-bas, les yeux peuvent s'ouvrir et on peut comprendre ce qui est essentiel. Là, nouveau, comme dans la Genèse, je l'ai dit, c'est à l'envers. Les yeux s'ouvrent. Mais les yeux s'ouvrent non plus à cause du péché, mais sur le Christ ressuscité. Qu'est-ce que ce texte nous dit ? Le péché, c'est fini. Le mal est à la fin. On est dans une nouvelle ère. On passe à quelque chose d'autre. On entre dans le repos. Alors là, mystère, j'avoue, je ne sais pas, Jésus disparaît. Je ne sais pas quoi faire de ça. Ça reste un mystère pour moi. Pourquoi il disparaît là, pops ? On ne sait pas. Mais il y a quelque chose d'essentiel, on peut mettre le dernier verset. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui brûlait en nous quand il nous expliquait les Écritures ? Après coup, se dire, tiens, je ne l'ai pas reconnu, mais il était quand même là, ce Christ. Il nous accompagnait. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc spécial qu'on vivait quand même ? Est-ce que dans nos cheminements en communauté, dans ce fait de demeurer, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où on se dit, tiens, il y avait un truc spécial quand même, parce que Jésus était là. Il ne voit plus Jésus, mais le cœur brûle. Alors vous allez me dire, quel rapport avec Jean 15, 17, et je conclue. Ces deux textes qui insistent sur demeurer ensemble et demeurer avec Jésus. Et bien dans ce cheminement, pour moi, on a un exemple extrêmement concret de ce que ça signifie demeurer. Tout simplement, demeurer avec le Christ et demeurer les uns avec les autres. Demeurer, c'est quoi alors ? Ben, c'est tout simplement cheminer ensemble dans notre quotidien. C'est assez banal. Marcher ensemble dans le quotidien en osant dire les questions que ça nous pose. En osant partager, par contre, ces questionnements. Il m'a dit ça, ça me perturbe, je ne sais pas quoi en faire. Demeurer, c'est revenir au texte fondateur, à la Bible, pour oser peut-être s'interroger sur ce qu'on vit, pour oser remettre en question, mais aussi être encouragé. Allez, sois positif une fois, Michel. Être encouragé. Demeurer, c'est être profondément humble face à tous les autres qui pensent différemment. Pas pour dire qu'ils ont raison, mais pour reconnaître que moi, en tout cas, je n'ai pas raison. Et que peut-être au milieu, il y a un petit chemin qui s'appelle la vérité, mais qui est le Christ. Demeurer, c'est quoi ? Ben, c'est avoir des temps de repos, où on se repose vraiment, on s'arrête ensemble, et où on se souvient du pain rompu, ce qu'on va faire tout à l'heure, ensemble, dans le repos. Demeurer, c'est offrir aussi alors des temps de repos aux autres, pour que les yeux puissent s'ouvrir. Puis demeurer, c'est accepter que Jésus chemine avec nous, même franchement, quand on a l'impression qu'il n'est pas là. Le texte, il nous dit quoi ? Il est là. Il est là. Même si on ne le voit pas, même si on ne le sait pas, il est là. Alors ma prière, c'est que pendant ce temps de scène que nous allons vivre, on puisse le vivre comme ces pèlerins d'Emmaüs. La fraction du pain, réaliser que nos yeux s'ouvrent sur ce qu'on vit et qu'on puisse dire... Il y a quand même quelque chose d'exceptionnel qui brûle en nous. Amen.